deux invités pour nous parler d'un livre qui sort en ce moment aux éditions La Geste. Josette Marteau-Château et Benoît Château, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci de consacrer quelques instants sur Liberté FM à cet ouvrage qui s'intitule « Dolmen et menhir » que vous proposez en Périgord, s'il vous plaît. Donc c'est une série, hein, puisqu'il y en avait eu d'autres pour d'autres départements, me semble-t-il, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Les départements voisins.
Pour quelle raison?
C'est le cinquième livre. C'est le cinquième livre.
Très bien. Pour quelle raison vous intéressez-vous à ces dolmens et ces menhirs en dehors de la région de prédilection qui est la Bretagne?
Peut-être, enfin, les dolmens et les menhirs nous intéressent. Les photographier nous intéressent parce que nous y voyons aussi un peu des sculptures, des œuvres artistiques. Et puis, notre projet a été peut-être un peu original au départ, au sens où il y a des inventaires qui sont faits par département de ces monuments, mais ils sont faits à l'attention généralement des archéologues. Il n'y avait pas de livre à l'intention d'un plus large public. Or, ce plus large public que nous rencontrons lors de nos visites de monuments, souvent ne sait rien de qui les a construits, confond gaulois et néolithiques, ce qui fait que nous avons eu l'idée, comme nous en photographions beaucoup, de présenter une maquette à l'édition La Geste, qui a été plutôt emballée par notre projet. Pour répondre de manière différente à la question, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des monuments néolithiques. Il y en a à peu près partout en France. Et des départements qui en comptent plus qu'en Bretagne, il en existe, comme le Lot ou l'Aveyron. Ça descend de la Bretagne, ça va jusqu'aux Pyrénées, ça déborde des Pyrénées, ça va en Espagne, au Portugal. Il y a des monuments néolithiques un peu partout en France.
Mais peut-être que la Bretagne les met plus en avant que d'autres régions.
En règle générale, ils sont plus imposants, donc c'est pour ça qu'ils sont plus connus, et notamment Carnac, où il y a des alignements de milliers de monuments, c'est sûr.
Est-ce que, pour en revenir donc à tous les deux à votre livre, Dolmen et menhir du Périgord, Légende des promenades, c'est aux éditions La Geste, je le rappelle, il date de cette même période que les alignements de Carnac que vous évoquiez à l'instant?
Ils sont un peu plus récents. Les monuments néolithiques ont d'abord été construits en Bretagne, puis ensuite cette façon de faire, cette mode, dirons-nous aujourd'hui, s'est répandue petit à petit. Donc, ils sont un peu plus récents qu'en Bretagne. En fin de compte, les monuments néolithiques ont été construits entre moins 4500 et moins 2500.
Est-ce qu'ils avaient une utilité, pardon, oui. Josette, est-ce qu'ils avaient la même utilité chez nous que dans les autres départements?
Et si oui, tout à fait. Tout à fait. Les dolmens sont des sépultures.
Oui.
Et les menhirs, alors là, on sait moins. Hein. Les alignements, ils peuvent être en alignement, ils peuvent être en cercle. Donc là, on pense qu'ils peuvent être lieux d'observation, lieux de cérémonie, qu'ils peuvent indiquer la proximité de l'entrée d'un dolmen. Là, les hypothèses sont diverses et on a aucune certitude. Pour les dolmens, l'on sait, car en faisant des fouilles, on a trouvé des squelettes, je veux dire, en région qui n'est non granitique, hein, parce que en région granitique, les os sont rongés, dévorés, ils disparaissent.
Combien en avez-vous recensé dans le département de ces menhirs ou dolmens?
Alors, recensé, nous en avons photographié 80. Il y en a qui ne sont pas accessibles, il y en a qui sont pas accessibles parce qu'ils sont dans des propriétés privées non accessibles, il y en a qui sont pas photographiables parce qu'ils sont dans des taillis de ronces, et il y en a qui ont été découverts très récemment et que nous n'avons pas photographié. Donc, notre livre en compte 80.
Comment avez-vous fait pour recenser, répertorier ces dolmens et menhirs du Périgord ?
Alors, il y a des listes. Il y a, au XIXe siècle, un personnage, Philippe de Bosredon, qui avait fait un inventaire en partant de tous les travaux qui ont été faits depuis le milieu du XIXe siècle. Ensuite, il y a au XXe siècle, Dominique Pauvert, qui a fait un travail de fin d'études, je crois, et qui a recensé les dolmens et menhirs dans les années 90. Donc on est parti de ces travaux-là, et puis ensuite, pour affiner mes recherches ou nos recherches, nous avons téléphoné aux mairies, souvent, pour connaître les lieux d'implantation.
Et les mairies les connaissent, ces lieux ?
Mais pas toujours. Mais les mairies connaissent des passionnés de pierre, connaissent des personnes qui peuvent être ressources dans nos recherches.
Alors, le département de la Dordogne est un vaste département. Est-ce qu'on en trouve de ces menhirs et dolmens sur l'ensemble des quatre Périgords ou ils sont concentrés dans certains endroits ?
Non. Nous avons vu visiter et photographier des dolmens et menhirs sur l'ensemble du Périgord, du département.
D'ailleurs, notre livre les recense, on a repris les quatre Périgords et on les a regroupés dans chacune des sous-régions du Périgord.
Alors évidemment, ce livre, donc je le rappelle, Dolmens et menhirs du Périgord, légendes et promenades aux éditions La Geste, permet de remettre en lumière ces monuments, mais est-ce que malgré tout, il y en a qui sont complètement oubliés, peut-être parce qu'ils sont tombés, sont aujourd'hui dans le sol et on ne les voit plus ?
Certainement, oui. Oui, il y en a même qui ont été enterrés parce que ces monuments ont été souvent détruits. Hein. Il pouvait y en avoir beaucoup plus que ce qui a été recensé. Ils ont été détruits pour utiliser la pierre pour empierrer les chemins. À l'époque du christianisme, ils ont été détruits parce que il fallait chasser les païens, la religion païenne. Alors ils ont été concassés ou ils ont été enterrés. Ce qui fait que les menhirs ou les monuments qui ont été vraiment enterrés, cachés à la vue, peuvent être retrouvés. Donc ils s'en retrouvent assez régulièrement.
Alors évidemment, c'est le sous-titre de votre livre, Légendes et promenades. Donc ces monuments, que ce soit dolmens ou menhirs, sont propices aux légendes qui ont traversé le temps et que l'on se passait de bouche à oreille lorsque on n'avait pas d'autres moyens d'écrire ou de coucher noir sur blanc ces légendes et ces traditions qui font partie de la culture populaire.
Oui, ils sont imposants. Il a toujours été difficile de comprendre comment ils ont été bâtis, construits. Donc on a créé aussi tout un tas de légendes autour de leur construction. On y a fait, on les a fait faire par des géants, par des fées, par la Vierge, le diable aussi a contribué. Donc il y a pour un certain nombre de monuments des légendes qui sont autour de ces sujets-là, autour des fées, de la Vierge, du diable. On y trouve les fesses du diable, mais on y trouve aussi au Blanc, par exemple, le domaine du Blanc où était construit par la Vierge qui a voulu offrir une protection à une bergère prise dans la tourmente, dans une tempête. Et d'autres pierres ont été lâchées par la Vierge. Le diable, en jouant, qui jouait aux quilles, à Vitrac, a été effrayé par Dieu qui est passé par là et a laissé sa partie de jeu en place, et c'est le dolmen de Zitrac. Voilà. On trouve le loup également, on trouve les maisons du loup. Il y a en Dordogne des cabanes du loup, des maisons du loup, l'oustal du loup, à Cugnac, à Beaumont, à Marsalès, à Saint-Amand-de-Belvès, à Vergues de Biron. Le loup, je pense, a séjourné en Dordogne pendant plusieurs siècles, et il avait la réputation d'être mangeur d'hommes. Mmh. Et je pense que cela aussi a été rapproché, enfin, le mangeur d'hommes et ses monuments qui peuvent être effrayants ou sympathiques.
Ces légendes auraient été totalement oubliées si elles n'avaient pas été collectées par les sociétés savantes du milieu du 19e, début 20e. Il y a eu énormément de sociétés savantes qui se sont constituées. Et alors, il y avait le maire, le secrétaire de mairie, le curé, le docteur, le pharmacien. Et ils ont beaucoup collecté ces légendes qui, aujourd'hui, sont totalement disparues.
Mmh. Chaque territoire...
C'est dans ces écrits-là du 19e, début 20e, que nous les avons retrouvés.
Mmh. Chaque territoire avait finalement sa légende autour de son dolmen ou de son menhir.
Oui, oui, oui.
Pour autant que ces légendes ont été transmises, mais certainement, oui.
Est-ce que dans notre grand Ribéracois, il y a aussi des menhirs que l'on peut découvrir pour celles et ceux qui nous écoutent dans notre secteur de diffusion et qui peut-être ne le savent pas et auront ainsi une promenade possible pour découvrir ce menhir ou ces dolmens?
Il y a, je ne sais pas, le grand, jusqu'où va le grand Ribéracois? Il y a à Bourg-du-Bos.
Oui, c'est chez nous, oui.
Et c'est vous, hein. Ensuite, plus au nord, à Verseillac.
Oui.
Plus à l'est, Spaussac et Saint-Vivien.
Oui, pays de pierre, s'il en est. Hein.
Voilà. En remontant, il y a Bourdeille. Saint-Crépin de Richemont, bien sûr, Brantôme, mais on n'est plus dans le Ribéracois, voilà.
Non, on s'éloigne un petit peu, ou dans la vallée de l'Isle, peut-être aussi.
Oui, oui. Oui, il y a, oui, il y a. La Gontrée-Boulounex, la vallée de l'Isle, on les a plus tous en tête, là.
Mais on va conseiller, bien sûr, à celles et ceux qui nous écoutent de se procurer cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies, Dolmen et menhir du Périgord, légendes et promenades. Donc, c'est le cinquième livre que vous publiez chez La Geste, hein, tous les deux, Josette Marteau-Château et Benoît Château. Oui. Est-ce qu'après la publication des ouvrages précédents, certains sont venus vous voir en vous disant bah, « J'ai aussi un dolmen ou un menhir dans mon secteur, dans ma propriété, et il n'a pas été recensé ?» Est-ce que pour la Dordogne, ça peut être pareil?
Oui. Mmh. Oui. Nous avons eu des nouvelles de nouveau ou de vestiges en Haute-Vienne, en Corrèze. Effectivement, on nous a signalé des monuments qui n'étaient pas répertoriés. Il y a aussi d'autres effets, c'est-à-dire que la municipalité entreprend de mettre le monument accessible ou en valeur. Donc nous sommes aussi très heureux de cela, de ces effets-là.
Bien sûr.
Ou des propriétaires, ou des propriétaires qui se disent je vais dégager mon monument. Nous en avons vu à côté dans le département à côté, en Corrèze, qui était dans un taillis pas possible. On nous l'a montré parce qu'on ne l'aurait pas trouvé. Et le propriétaire, nous a-t-on dit, a débroussaillé et fait un petit chemin pour y accéder. Donc il y a ces effets-là.
Très bien. Donc ça peut être la même chose pour ce livre sur les dolmens et menhirs du Périgord. Hein. Il peut y avoir...
Très certainement.
Parmi les 80 monuments que vous avez répertoriés et photographiés donc, dans cet ouvrage, Dolmens et menhirs du Périgord, légendes et promenades aux éditions La Geste, je le rappelle, il y en a un qui vous a plus marqué que d'autres, de par son emplacement peut-être, de par une légende qui lui est attribuée, ou son aspect tout simplement, visuel.
Il y a plusieurs monuments qui sont assez impressionnants. Hein. Il y a à Beaussac-Saint-Vivien, la Perlevade, qui est un monument. Alors lui, il a une histoire... il y a une légende, effectivement, mais il était en très mauvais état. Il a été restauré dans les années 1920, je crois, aux grands frais d'une société, la Société historique et archéologique du Périgord, qui a presque regretté parce que la restauration n'a pas été parfaite. Il y a l'allée couverte de blanc, hein, qui est vraiment à voir, qui est très spectaculaire. Il y a à Limera un dolmen qui est curieux. Alors lui il met, je le signale et je trouverais bien que l'on améliore sa situation. Il y a eu des fouilles qui ont été faites dans les années 1970-71 par là, et on a maintenu la dalle, on l'a maintenue à l'époque par des madriers, et depuis 1971, la restauration n'a pas été faite. Il y a toujours ces madriers qui maintiennent la dalle, alors que le site a été aménagé, que c'est un lieu de promenade vraiment très, très agréable, et que on pourrait avoir un très beau monument. Il est déjà intéressant, hein, un très beau monument là. Qu'est-ce qu'on peut... Ben, Brantôme, hein, Brantôme.
Bien sûr, oui.
Saint-Aquilin, qui est très sympathique. Alors, il y a aussi des beaux polissoirs. Nous n'avons pas fait un inventaire photographique des polissoirs. Nous en signalons un, quand même, parce que le site, ça fait une belle promenade. Le site est beau. Ce sont les polissoirs de Bonarme à Saint-Pardoux et Vielvic. Il y a deux polissoirs très intéressants, beaux.
Très belle
couleur de pierre.
Donc c'est un bloc de pierre, hein, un polissoir, hein, pour ceux qui ne sauraient pas.
C'est un bloc de pierre avec des rainures de polissage, puisqu'il servait à polir les haches, les couteaux, tous ces outils que les hommes du néolithique faisaient.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc Dolmens et menhirs du Périgord, légendes et promenades. C'est aux éditions La Geste et c'est dans toutes les bonnes librairies.
Certainement. Merci beaucoup.
Merci à vous deux.